chapitre 11. Émile est réveillé par des petites mains qui se posent sur son front. Il pense d'abord être dans un rêve, car quand il ouvre les yeux, il ne voit que du vert et une jolie lumière dorée. En fait, ce n'est que l'herbe et les feuillages. Ce n'est que le soleil qui danse dans les branches. Il a dû s'assoupir. Son carnet est posé à côté de lui. Les mains sont celles de Joanne. Elle applique quelque chose de frais et d'humide sur son front. Joanne ? Elle a dû se déplacer, car maintenant il voit son visage au-dessus de lui.
Ne bouge pas, je t'ai fait un cataplasme.
Elle disparaît de nouveau de son champ de vision. Il jette un regard à son coude sans bouger la tête. Joanne a déjà dû s'occuper de cette plaie. Il n'a plus le pansement blanc de l'hôpital. À la place, il a une espèce de bouillie verte.
Qu'est-ce que c'est ?
Elle ne répond pas tout de suite. Elle est trop concentrée sur sa tâche. Il savoure la sensation de fraîcheur qui enveloppe son crâne, qui semble entrer en lui et se diffuser dans tout son corps.
Des cataplasmes d'ortie, finit-elle par répondre.
Il l'entend bouger. Elle doit se redresser, car il la voit de nouveau au-dessus de lui.
Je n'ai trouvé que des orties.
Et ça n'est pas bien ?
J'aurais préféré trouver de la menthe pour avoir un antiseptique.
Hein ?
Enfin, ça empêchera au moins qu'il y ait de nouveaux saignements.
Elle semble réfléchir un instant.
Il nous faudrait du vinaigre pour désinfecter.
Il ne peut s'empêcher de sourire. Il se rend compte que ça provoque un tiraillement au niveau de la peau de son crâne, là où se trouvent les points de suture.
« Qu'est-ce qui te fait sourire ?»
demande Joanne. Il est surpris qu'elle l'ait vue.
« Je me demandais quelle odeur j'aurais quand tu m'auras recouvert de menthe et de vinaigre. »
Il est heureux de constater qu'elle sourit aussi.
« Tu serais un très bon répulsif pour insectes. »
Elle a un rire très léger. C'est toujours surprenant de l'entendre s'esclaffer. Émile ferme à demi les yeux pour profiter du moment. Joanne et lui qui plaisantent, c'est si rare, l'herbe sous son corps, les rayons du soleil qui effleurent son front, la brise fraîche qui lui chatouille les jambes.
« Je te laisse te reposer encore un peu, »
dit-elle. Il la sent qui se lève, il entend ses pas s'éloigner sur l'herbe.
« Quelle heure il est ?»
Mais elle a déjà disparu. Lorsqu'il se réveille de nouveau, la nuit est tombée. Il se redresse en grimaçant car son coude lui fait mal. Il a toujours la bouillie dessus. Il suppose qu'il l'a encore sur la tête également. Joanne est assise non loin autour d'une petite lueur qui tremblote. Il met quelques secondes à s'accommoder à l'obscurité et à comprendre qu'elle est penchée au-dessus du réchaud. Elle se retourne quand elle l'entend bouger.
« Ah, t'es réveillée ?»«
Désolé, j'ai dormi comme un bébé. Il est tard ?»
Sa montre est cassée depuis plusieurs jours. Il a encore du mal à s'habituer à l'idée de vivre sans horaire. Joanne hausse les épaules.
Je suppose. Peut-être 22 heures.
Il passe en position assise, puis se lève avec des gestes lents. Il se sent beaucoup mieux que tout à l'heure. Reposé, apaisé. Il la rejoint à côté du réchaud.
Tu dois mourir de faim, dit-il sur un ton d'excuse.
Ça va.
Qu'est-ce que tu prépares de bon ?
Elle lui désigne une conserve de haricots rouges et une autre de maïs qui traîne à ses pieds.
Un semblant de chili con carne, sans carne.
Intéressant.
Il s'assoit à côté d'elle, étend ses jambes devant lui en s'étirant.
T'as besoin d'aide ?
Non, c'est presque prêt.
Bon.
Il laisse passer quelques secondes. Il la regarde remuer le contenu de la casserole avec des gestes lents.
Et ces trucs, je peux les retirer quand ?
Les cataplasmes ?
Ouais.
Ça va sécher, ça tombera tout seul.
Bon.
Ça te gratte ?
Non.
Elle hausse les épaules.
Alors attends que ça tombe tout seul.
Le silence retombe. On n'entend plus que le bruit des criquets et celui de la cuillère qui racle la casserole. Quelques minutes passent. Joanne coupe le feu, récupère leurs deux assiettes en plastique et les remplit de son chili sin carne.
Tiens.
Merci. Ils récupèrent les grosses cuillères qui leur font office de fourchette pendant leur bivouac et ils commencent à manger. Le village est d'un calme absolu. Tout à l'heure, quand ils l'ont traversé, ils n'ont croisé personne. Ils ont l'impression d'être seuls au monde avec leurs assiettes en plastique.
J'aime...
Émile termine d'avaler sa bouchée avant de continuer.
J'ai relu le carnet tout à l'heure, mais rien n'est revenu.
Toujours pas ?
Il secoue la tête. Joanne n'a pas l'air inquiète. Ce matin, elle s'est montrée vraiment anxieuse, mais ce soir, elle a un air rassuré et rassurant.
Ça reviendra peut-être ?
Ou pas ?
Ou pas.
Il s'est passé quoi pendant ces 3 jours ?
Elle est un peu prise de court par sa question. Elle repose son assiette sur le sol, hausse les épaules.
Rien de spécial, comme d'habitude.
C'est-à-dire ?
On a marché, on a monté la tente, on a mangé et dormi, comme tous les jours.
Hein ?
Il est déçu. Il voulait entendre autre chose. Il aimerait qu'elle meuble le noir dans sa tête. Qu'elle le remplace par des paysages, par des sons, par des odeurs. Elle a dû le comprendre à son expression désemparée. Ou peut-être à son « ah ». En tout cas, elle se redresse légèrement et elle déclare.
C'était un jour de fin du monde, ce jour où on est arrivé à Luz Saint-Sauveur. Le ciel était bas et sombre, il a tonné toute la nuit. Tu avais l'air heureux, tu as passé des heures collées à la moustiquaire à regarder les éclairs.
Il sourit avec reconnaissance. Elle ne s'imagine pas le bien que cela lui fait.
« Et toi ?» demande Émile.
« Quoi, moi ?»«
Tu devais être effrayé. »
Elle hausse les épaules avec son petit visage inexpressif, qui l'est de moins en moins.
« Pas tant que ça. »«
Ah bon ?»«
De voir les éclairs, ça rend le son moins effrayant. »«
Oh, alors c'est une bonne nouvelle. »
Elle acquiesce et plisse légèrement les yeux pour se concentrer.
Le jour d'après était un peu comme un matin après l'orage.
C'est-à-dire ?
Elle plisse encore les paupières pour choisir ses mots.
Après le noir et le vent, tout paraît plus coloré, plus frais, plus léger, tu comprends ?
Ouais.
Le ciel était comme plus bleu, les nuages plus doux.
Il ne se rend pas compte qu'il l'écoute avec une certaine fascination, qu'il la fixe, la bouche entrouverte. Tout ce dont il est conscient, c'est qu'il songe. Bon sang, c'est une véritable poésie dans sa tête.
J'ai ramassé des fleurs sur le chemin. Tu m'as demandé ce que c'était. C'était des tulous.
Il ouvre la bouche, mais elle répond à sa question avant qu'il ne la formule.
C'était des fleurs, avec une longue tige, et des dizaines de petites clochettes bleu-violet. Tu as dit que c'était joli. On est arrivé à Gèdre dans l'après-midi et tu as voulu aller voir les moulins. Tu as adoré les moulins. C'est vrai qu'ils étaient beaux, ces vieux moulins en pierre.
Il attend une seconde pour être sûr qu'elle est terminée, puis il dit
« Merci ».
Elle hausse les épaules comme si ça n'était rien. C'est beaucoup. Il lui en est reconnaissant. La suite, il la connaît. Ils ont pris la route du cirque de Gavarnie ce matin et il a fait un malaise. On l'a rapatrié en hélicoptère à Bagnères-de-Bigorre et ce soir, ils sont là, dans ce petit village qui semble abandonné. Ils reprennent leur repas en silence. Lorsqu'ils jettent leurs assiettes dans l'herbe, quelques minutes plus tard, Joanne croise ses jambes en tailleur puis ouvre la bouche plusieurs fois, comme si elle allait parler. Mais elle se ravise. Émile demande
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
Et elle secoue la tête.
« Rien, c'est idiot. »
Il insiste un peu et elle finit par murmurer
« Je sais pas. »
Perdu dans ses pensées. Il n'est pas certain qu'elle s'adressait vraiment à lui. Quand il se relève, avec des gestes lents, il la sort de ses pensées en proposant
« Je vais faire un tour du village. J'ai besoin de marcher un peu. » Tu veux venir avec moi ?
Elle ne fait même pas mine d'hésiter. Elle se lève à son tour.
D'accord.
Leurs pas résonnent sur le pavé dans le village désert. Ils marchent sans se presser, les mains dans les poches. Ils s'arrêtent un instant devant l'église et Johan se racle la gorge.
Tout à l'heure, je pensais à quelque chose.
Elle hésite. Il hoche la tête pour l'encourager à continuer, mais elle doute.
Je pensais à ce qui se passerait la prochaine fois que tu auras un malaise.
Il acquiesce.
T'as raison, faut qu'on en parle.
Il se laisse tomber sur une marche du parvis de l'église. Elle non, elle reste debout, dansant d'un pied sur l'autre.
Il faudra bien que je t'emmène dans un hôpital si tu refais ce genre de malaise.
Il voit où elle veut en venir. Il n'a pas voulu y penser cet après-midi. Il a voulu profiter de la sérénité retrouvée, mais il faut bien qu'ils en discutent.
Je sais pas si tous les hôpitaux ont accès aux fichiers médicaux aussi facilement, mais...
Il l'interrompt. Je pense que c'est le cas de tous les hôpitaux. Je pense que ce genre de choses se reproduira. Il a un air douloureux sur le visage.
Je sais pas ce que je peux te dire. Je sais pas s'il y a une solution à ça. Je veux pas que tu sois poursuivi, alors. Si ça se reproduit, je préférerais que tu me laisses sur le bord du chemin en attendant que je me réveille.
Arrête! Je veux pas qu'il me ramène chez mes parents. Je sais.
Je préfère encore que tu me laisses crever sur le bord de la route.
Je sais, Émile. Il y a une solution.
Quoi ?
Il la dévisage avec incrédulité. Elle est toujours debout devant lui. Elle le surplombe. Elle a l'air assez sûre d'elle. Elle hoche la tête.
Oui, j'y ai réfléchi cet après-midi. Et puis après, pendant le repas.
Qu'est-ce que...
Il n'arrive pas à terminer sa question. Il est empli de doutes et d'attentes fébriles.
On ne changera rien au fait que tu as été déclaré inapte à prendre des décisions tout seul. Ça, c'est impossible. Mais on peut faire en sorte que tes parents ne soient plus tes seuls responsables légaux.
Il ne comprend pas. Elle a l'air tout à fait sûre d'elle. Il ouvre la bouche pour l'interroger, mais elle lâche finalement la bombe qu'elle retenait.
Il faut qu'on se marie.
Il est pris d'une toux nerveuse. Il comprend mieux pourquoi elle hésitait tout à l'heure pendant le repas, pourquoi elle a déclaré « rien, c'est idiot ». Son idée est complètement dingue. Il ne voit même pas le rapport.
Je sais, c'est une idée qui peut te paraître totalement déplacée, mais je vais t'expliquer.
Maintenant qu'elle a lâché sa bombe, elle est redevenue la Johan qu'il connaît. Une Johan calme, contrôlant parfaitement ses émotions, presque flegmatique. C'est comme si, tout à coup, elle n'était plus réellement concernée par le sujet.
Si on se marie, je deviendrai légalement responsable de toi. Je pourrais m'assurer qu'on ne te ramène pas au centre ou chez tes parents.
Elle se tait. Elle le laisse prendre la mesure de ce qu'elle vient d'annoncer. Elle reste debout, les bras croisés, sans manifester d'émotion particulière.
Je te demande pas de me donner une réponse ou... Ou ni même d'y réfléchir à tout prix. Je voulais juste que tu saches qu'il y avait une solution.
La surprise passe doucement. Il essaie de prendre la mesure de tout cela. Je pourrais m'assurer qu'on ne te ramène pas au centre ou chez tes parents. La phrase résonne dans sa tête. Il se force à articuler lentement.
T'as raison, c'est... Ça pourrait être une solution.
Il comprend mieux pourquoi elle a fini par lâcher le morceau juste devant l'église. Il secoue la tête pour essayer de reprendre totalement ses esprits.
Tu as tout le temps pour y réfléchir, ou non?
Ouais, je sais.
Elle fait un pas en arrière, lui désigne la route pavée.
Tu veux qu'on y retourne? Qu'on continue la balade? On n'est pas forcé d'en reparler. Pas ce soir, en tout cas.
Il se relève avec des gestes lents. Il a l'impression de tourner au ralenti. Ils se remettent en route dans le village toujours désert. Sur la route, les lampadaires projettent leurs ombres de manière déformée. On dirait deux grands fantômes qui errent sans but.
Si on se marie, je deviendrai légalement responsable de toi. Je pourrai m'assurer qu'on ne te ramène pas au centre ou chez tes parents.
Est-ce qu'elle est vraiment prête à le faire ? Ils vont se coucher sans un mot. Cette discussion sur le parvis de l'église a jeté un froid entre eux, même si ni l'un ni l'autre ne le veut. Car maintenant, ils sont forcés d'y songer tous les deux. Ils sont forcés d'envisager l'autre comme un éventuel futur époux et une éventuelle future épouse. Sur le papier, au moins. Et ça jette un certain trouble. Tu veux te marier, toi ? Il plonge quelques années en arrière dans son studio d'étudiant. Il revoit la tête de Laura, une tête moqueuse qui se tourne vers lui. Ils sont allongés dans son minuscule lit. Lorsqu'ils font l'amour là-dedans, ils savent pertinemment que les voisins se mettent à taper au mur. Parfois, ils le font juste pour rire. « C'est quoi cette question ?» Il ne se laisse pas démonter par son ton insolent. Il sait qu'elle l'utilise souvent pour masquer son malaise.
« C'est une question comme une autre ?»«
fait-elle en détournant le regard.
« Alors, tu veux te marier ?»«
Je sais pas. » »«
Arrête, on sait tous si on en aura envie ou non. » »«
Moi, j'ai peur de changer d'avis quand il sera trop tard. »
Il se redresse sur un coude. « Quoi, genre devant l'hôtel ?»«
Non, pas tout de suite, mais une fois marié, avec les mois et puis les années. » »«
Ah. »
Elle laisse son regard se perdre au plafond.
C'est pour ça que je suis sûre d'un truc.
Ah oui, lequel ?
Si je me marie un jour, ce sera de mon fait.
C'est-à-dire ?
C'est moi qui l'aurais décidé. C'est moi qui aurais fait la demande.
Elle gonfle la poitrine pour prendre un air important.
Car je saurai que je suis prête. Ce sera le moment où je le saurai.
Il a une moue dubitative et embêtée.
Alors, si je m'apprêtais à te faire ma demande, là, tout de suite ?
Alors je te répondrai non, sans hésitation.
Il fait mine de s'offusquer et il la pousse hors du lit. Il est un peu offusqué quand même s'il ne veut pas se l'avouer.
Hé !
Elle remonte sur le lit et se met à le frapper du plat de la main.
Le problème, vois-tu, c'est qu'il risque d'être trop tard après.
Quoi ?
Quand tu te décideras à te mettre à genoux devant moi, j'aurai peut-être changé d'avis.
Elle le gratifie d'une affreuse grimace de dédain.
« Moi, me mettre à genoux devant toi ? Jamais !»
Il réplique vexé. «
De toute façon, je t'épouserai jamais. J'épouserai une blonde. »
Elle croise les bras sur sa poitrine.
« Je vois. »«
Tu vois quoi ?»«
Je t'ai vexé, tu cherches à me blesser. » »«
Pas du tout. C'est que j'ai toujours préféré les filles blondes. Et celles avec un peu plus de distinction. »
Cette fois, il sent qu'il la blesse vraiment.
Qu'est-ce que tu insinues ?
Je sais pas.
Oh si, tu insinues que je manque de distinction.
Un peu.
T'es une sacrée grande gueule, Laura.
Il voit son visage se décomposer. Elle se relève d'un bond, ramasse ses vêtements, son sac à main.
Hé !
Crie-t-il en se levant à son tour. Elle l'ignore. Il essaie de la retenir par le bras.
Hé, ça va, c'était rien. C'était...
Elle accroche son sac à main sur son épaule. Elle est en nuisette, elle a ses vêtements et ses chaussures à la main.
L'eau, tu vas pas sortir comme ça.
L'eau.
Elle devient méprisante. Elle le fait toujours quand elle est blessée. Elle pose sa main sur la poignée de la porte. Il veut lui dire
« Arrête, je t'aime, je suis con. Oui, je suis vexé, t'as raison. C'est pour ça que je t'ai dit ces conneries. »
Elle actionne la poignée, lance.
« Bonne soirée. »
La porte claque avec force. Il aurait voulu lui dire la vérité. Il aurait voulu lui dire qu'il rêverait de pouvoir l'épouser un jour. Ils se sont réconciliés, bien entendu. Mais il ne lui a jamais dit.